Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aglété de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous recevons aujourd'hui un journaliste indépendant que nous avions déjà accueilli au micro de Podcasting. C'était pour le documentaire que vous aviez consacré à Nicolas Florian et à sa défaite aux dernières municipales bordelaises face à Pierre Urmic. Cette fois, nous vous recevons pour un autre documentaire qui sera diffusé demain soir à 23h45 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Engagé. Bonjour Nicolas Delage.
Bonjour Jean, bonjour à tous. Merci de me recevoir surtout.
Nicolas, pour ce documentaire Engagé EES, vous avez suivi durant plusieurs mois deux avocates bordelaises, Maître Maude Sécheresse et Maître Marie Mescam, deux consoeurs donc pourtant qui sont plus souvent amenés à s'affronter qu'à coopérer, Nicolas.
Oui, effectivement, ce sont deux avocates qui défendent des clients complètement différents. L'une, Maude Sécheresse, elle défend des auteurs de crimes, des personnes qui sont accusées et qui a priori vont en prison après les procès. Et quant à Marie Mescam, elle ne défend que des victimes avec une spécialité des victimes de dommages corporels. Par exemple, des personnes qui étaient dans le bus à Puisseguin ou leur famille. Bref, des personnes qui ont été touchées dans leur chair et qui ne sont que victimes, qui n'ont jamais rien connu en termes de meurtre ou de crime.
Alors, être plutôt du côté des victimes ou plutôt du côté des coupables, je résume évidemment à grands traits, cela amène forcément sur certains sujets à avoir des conceptions différentes. C'est très frappant, par exemple, lorsque les deux femmes abordent le caractère réparateur d'un procès pour les victimes. On est là au cœur de ce que vous vouliez montrer, Nicolas ?
Oui, complètement. C'est là vraiment ce qui nous montre la difficulté d'être avocat. Quand on est avocat de victimes, on veut que la justice se fasse vite, se fasse bien et se fasse si possible durement également pour les autres. Auteur de crime. Et quand on est avocat d'auteur, justement, on a envie de faire prendre plus de recul à la cour, aux juges, pour leur faire comprendre la situation. Il faut prendre le temps que la justice essaye de comprendre que cet acte terrible a peut-être des explications. Attention, pas le pardon est très difficile à obtenir quand on est côté victime, mais les explications peuvent aider à faire grandir tout le monde. Ça n'est pas aussi simple quand on regarde du côté la victime, et c'est vraiment ce qu'on essaye de montrer à travers ce documentaire qui s'articule en fait en deux parties, ou plutôt deux séquences qui s'entremêlent tout au long du 52 minutes. C'est un face-à-face, une interview entre les deux qui, pour l'anecdote, a été réalisée dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats de Bordeaux. Et on alterne entre ces séquences face-à-face, où chacune expose son point de vue, forcément différent, hein, et on alterne avec des séquences inside, des séquences filmées dans l'intimité de leur cabinet ou de leur rendez-vous en extérieur, où j'ai la chance qu'elles oublient complètement la caméra pour me faire confiance et me laisser c'est filmer vraiment leurs entretiens, leur façon de travailler.
The Georgia courtroom was crowded as Ellie Mae took the stand. She was accusing Reverend Joe Henry of being a no good preaching man. She said, "The Reverend partook of my lovely body." The Reverend said, "She lies." The jury said, "Now listen, I'll do the talking and the courts will justify." Prosecuting attorneys start pacing the floor, sweating and making threats. The judge's wife sitting back there in the back row say, "Hey, judge, I'll check. 'Cause Reverend Joe Henry is a good man. He preached all over the bottom land. He spoke so a child could understand. And there ought to be a whole lot more good folks like Reverend Joe Henry preaching in the bottom land."
Vous venez de l'évoquer, au-delà de ces débats de fond sur leur métier, sur leur conception de la justice, vous suivez donc aussi le travail de ces deux avocates. On les voit notamment évoquer les conditions de détention ou le thème de l'irresponsabilité pénale. On mesure à travers leurs témoignages combien les conditions d'exercice de tous ceux qui travaillent à administrer la justice se sont précarisées ces dernières années.
Oui, exactement. Et encore, on n'aborde pas dans ce documentaire l'aspect financier, parce qu'évidemment, lorsqu'on est toute l'année derrière sa télévision, derrière sa radio, pour écouter, voir qui sont les avocats, eh bien, on voit les ténors du barreau. On imagine qu'ils sont payés des centaines de milliers d'euros à chaque fois. On perçoit, je pense, à travers ce documentaire, ce qui est une vraie vie de personnes qui sont extrêmement engagées, qui sont vraiment des avocates à 100% de leur temps, qui sont vidées après, par exemple, un procès d'assises qui est extrêmement éprouvant. En fait, dans ce documentaire, il y a tout sauf les plaidoiries. C'est-à-dire que on avait fait les demandes pour filmer des plaidoiries. Ça n'a pas été le cas. On nous a refusé cet accès-là. Finalement, il s'en dégage une force. C'est-à-dire qu'on filme ce qu'il y a avant, toute la préparation, ce qu'il y a après. Il y a aussi des séquences entre avocats, après après un procès très fort. On voit un peu ce qu'ils se disent, on voit leurs relations. Donc finalement, le fait de ne pas avoir ce qui est évident, de ne pas avoir de plaidoirie, ce qui est souvent la partie la plus spectaculaire de l'activité d'un avocat, ça permet de se reconcentrer sur leur vraie vie, entre guillemets, sur tout le temps, toutes les stratégies qu'ils mettent en place dans les semaines, dans les mois avant les procès, et puis également tout le soulagement ou toute la déception, bref, l'émotion qu'il y a après des procès forts.
Oui, en France, il est rarissime d'obtenir l'autorisation de filmer des procès ou même des parties de procès comme les plaidoiries. Maître Maud Sécheresse et Maître Marie Mescam vous ont ouvert les portes de leur cabinet, de leur quotidien, vous le disiez, y compris lorsqu'elles traitent de sujets très sensibles ou difficiles comme celui d'un rescapé du Bataclan. Ça a été difficile de gagner leur confiance, de les amener à vous montrer tout cela ?
Non, effectivement, j'ai été moi-même le premier surpris. J'avoue que je suis évidemment très heureux d'avoir eu accès à tous ces entretiens, ces rendez-vous. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'elles avaient confiance en moi. Alors j'avais montré mon précédent documentaire également, c'était dans l'intimité de la campagne de Nicolas Florian. Elles ont probablement estimé qu'elles pouvaient avoir confiance en moi. Mais c'est vrai que c'est une chance et j'aurais jamais pu faire ce documentaire si j'avais pas eu leur confiance absolue, parce qu'il y a des scènes aussi d'intimité dans une chambre d'hôtel. Quand Maud Sécheresse téléphone à son mari la veille d'une plaidoirie importante, elle se livre, elle se met à nu là, dans le sens où elle vraiment a peur de la plaidoirie du lendemain, elle craint beaucoup qu'elle passe à côté, elle craint beaucoup que son client également lui mette des bâtons dans les roues, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a du mal à passer auprès des jurés dans ce procès. Elle se livre complètement. Et ça, c'est vrai que ce sont des scènes filmées qui sont relativement rares et qui permettent de donner de l'émotion, de la force également, et vraiment la vraie vie, entre guillemets, d'une avocate, du travail d'avocat, surtout d'avocat pénaliste, autrement dit, qui traite d'affaires dures et graves.
La vraie vie de ces avocats pénalistes, on la voit aussi à un moment avec Maître Sécheresse, qui accepte et qui se réjouit finalement d'une certaine manière de se voir confier la défense d'un terroriste. Elle l'évoque avec l'une de ses collaboratrices. Est-ce qu'elle a eu des craintes, Maître Sécheresse, en revoyant cette séquence ? Est-ce qu'elle a eu des craintes ? Est-ce qu'elle ne s'est pas dit que ça pouvait sembler, aux yeux de certains, un peu indécent finalement de se réjouir de cela ?
Je ne vais pas poser la question, mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est la vraie vie. On y est. C'est-à-dire que ce que Maud Sécheresse, à ce moment-là, estime positif, c'est la difficulté du dossier, la difficulté de défendre un terroriste. Elle ne se réjouit pas d'essayer de sortir de prison un terroriste, avéré. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment... je ne suis pas vraiment rentré dans les détails de ce dossier. J'ignore complètement moi-même quel est le terroriste concerné. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est excitée par la difficulté. Si on doit comparer avec d'autres professions, ça pourrait être par exemple un journaliste qui est habitué à faire des podcasts enregistrés et tout d'un coup, le lendemain, va faire un direct à la radio pendant une heure. Bon, quel que soit le sujet, la difficulté technique du métier, elle est là. Et je pense que Mode Sécheresse, avec un dossier qui arrive, qui est un dossier de terroriste, avec toutes les difficultés que ça engendre. Évidemment, c'est pas indéfendable, forcément, rien n'est indéfendable, c'est aussi le socle du documentaire, mais là, il y a des difficultés énormes, sans compter la pression médiatique et populaire. Donc, elle se réjouit peut-être, avec cet œil pétillant, elle se réjouit de la difficulté, de l'excitation qu'il y aura à gérer un tel dossier. Je pense qu'il faut plutôt en rester là.
Ce documentaire, c'est aussi l'occasion de voir une facette très humaine de ces avocates. On pense notamment à ce petit rituel, le fait d'écouter Gold avant chaque procès pour l'une d'elles. C'était important, j'imagine, pour vous de montrer ce côté humain, presque par opposition aux super-héroïnes qu'elles sont lorsqu'elles enfilent leur cape, en l'occurrence leur robe, comme le confie Maître Sécheresse au début de votre documentaire.
Oui, complètement. Et je regrette même de ne pas avoir été davantage dans leur quotidien parce que c'est bien d'avoir des réunions un peu lourdes avec des victimes du Bataclan, avec des familles du bus depuis Seguin. Mais le quotidien d'un cabinet d'avocats, c'est aussi un peu de légèreté. Ça aide à avancer, ça peut aider à se protéger également. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est cette histoire de Gold, cette chanson « Ville de lumière » qu'elle écoute la veille de chaque plaidoirie. Alors, l'anecdote est détaillée dans le documentaire. Je vous laisserai regarder sur France 3 Aquitaine ou sur la plateforme France.tv. Mais en fait, pour l'anecdote, on a contacté le groupe Gold et ils nous ont cédé gracieusement les droits. Donc on entend Ville de Lumière dans ce documentaire, alors que habituellement, bon, il faut payer un peu cher hein, pour avoir des vraies chansons, des vrais morceaux comme ça populaires et connus de tous.
Nicolas, pour quelles raisons vous avez souhaité suivre ces deux avocates ? Pourquoi maintenant et pourquoi elles en particulier ?
Alors, c'est une histoire de rencontre, comme toujours. Il se trouve que je connais le mari de Maud, c'est le président de club de rugby amateur. Je me suis retrouvé à table, tout simplement, une réunion publique à table avec les deux. Et puis, j'ai commencé à engager la conversation avec Maud Sécheresse et j'ai tout de suite été fasciné par ce métier, parce qu'elle m'expliquait. Elle était entre deux plaidoiries. Le lendemain, elle allait gérer un dossier et j'ai trouvé extrêmement détendu. Alors, évidemment, j'ai posé des questions de néophyte. Et puis, je l'ai revu un mois après, deux mois après, toujours par hasard. Et puis, au bout d'un moment, j'étais en train de finir le doc sur Nicolas Florian. Je lui ai demandé si elle n'avait pas une affaire originale, une affaire forte, qui me permettrait peut-être éventuellement d'approcher une caméra. Et voilà, c'est juste né comme cela. Et ensuite, en fait, l'arrivée de Marie Mascam s'est fait dans un second temps, un peu parce que j'aurais bien aimé filmer des plaidoiries, filmer toute une affaire, en l'occurrence une affaire assez grave qui était jugée dans les Landes, une affaire de crime raciste. Il se trouve que là aussi, le fait de faire arriver Marie Mascam dans ce documentaire a été à l'arrivée une force. Je pense que c'est quelque chose un peu comme l'absence de plaidoirie. Là, le fait finalement d'ouvrir ce documentaire à deux femmes que beaucoup de choses opposent dans ce doc est une vraie force pour explorer des termes. C'est tout sauf manichéen, justement, ce documentaire sur la justice. Et le fait d'avoir deux femmes opposées qui expliquent, hein, qui bataillent aussi, et parfois on les voit pas d'accord, hein, face à face, ça permet de mieux comprendre certaines problématiques liées à la justice. C'est à la fois très moderne et avec une grande part de noblesse concernant ce métier qui est plus que jamais très difficile, très très difficile à appréhender.
Et ce crime raciste que vous évoquez donne d'ailleurs lieu à une séquence assez cocasse de discussion autour de ce qu'il faut plaider, est-ce qu'il faut plaider le racisme ou pas. C'est assez étonnant, évidemment, d'un point de vue extérieur, cette stratégie-là. Merci beaucoup, Nicolas Delage, d'avoir été notre invité.
Merci, Jean.
Je rappelle le titre de votre documentaire. Il sera diffusé demain soir à 23h45 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et disponible un an en replay, comme vous l'avez rappelé, sur la plateforme de la chaîne. Il s'appelle Engagé, Engagé EES. C'est la fin de cet épisode de podcasting. L'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. Iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.